RTF Limoges, le magazine culturel.
Paris en novembre 2023, Limoges, humble et rebelle, est un ouvrage écrit en collaboration entre le photographe Chanel Coel et l'historien Vincent Brousse, que j'ai le plaisir de pouvoir interviewer aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Votre livre vient donc de paraître. Pourriez-vous nous parler de votre nouvel ouvrage ?
Alors, au départ, c'est véritablement un ouvrage de photo, c'est-à-dire c'est le projet d'un photographe qui ne vit pas dans la ville, qui vit à Chinon, qui a beaucoup bourlingué. Et qui a posé qui a promené son appareil photo en partant du centre-ville et en faisant une sorte de colimaçon à partir de ce centre-ville. Et puis, il y a eu différentes campagnes de photos, dont une qu'on a faite ensemble pour élargir un peu le cercle. Et sur ces photos, à partir de ces photos, mon propos a consisté à les ordonner, à trouver un plan, et puis à évoquer une sorte de parcours, de voyage dans la ville, en ayant en tête que c'était le regard de quelqu'un qui découvrait la ville.
J'avais l'impression que c'était vraiment une promenade que vous construisiez petit à petit dans le livre. Est-ce que c'était l'intention du coup de donner au lecteur un moyen de suivre un nouveau chemin dans Limoges ?
Exactement, et c'est exactement cela, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un plan au début. C'est un plan de localisation des lieux qui sont photographiés dans les 8 chapitres. C'est se dire, on vit dans la ville, on y passe, on s'y rend, on y travaille, on y grandit, on y circule. Et puis si on proposait finalement des parcours, et d'une certaine manière, il y a entre 4, 5, 6 ou 7 parcours. Il y a un parcours, le premier qui est un parcours le long de la Vienne, depuis très en amont jusqu'à relativement en aval, enfin les frontières, les limites des deux communes qui entourent Limoges. Il y a un parcours dans la cité, la cité autour de la cathédrale, un parcours autour de la place de la Motte, un parcours dans la rue de la Boucherie spécifique, et ainsi de suite.
Et du coup, quel a été votre travail exactement pour construire ce livre ?
Alors le premier travail, ça a consisté à opérer une sélection dans les 300 et quelques photographies que Chanel Coel avait réalisées, et savoir quelles photos en fait je retenais, quel angle de vue chaque fois je privilégiais, et puis de trouver une cohérence au sein de chacun des chapitres, et puis de réfléchir à quel auteur, quel ouvrage, quel article, quel voyageur j'avais lu précédemment en rapport avec ce que l'on voyait. C'est pour ça que ça commence avec quelqu'un qui a eu cette très belle phrase, François Reichenbach, ceux qui m'aiment prendront le train, hein, pour dire je veux être enterré à Limoges et vous n'aurez qu'à prendre le train pour venir sur ma tombe, en passant par Jung, le géographe, l'agronome et géographe anglais, ou Roger Nimier, cet auteur des années 50 qui fait un roman qui se passe à Limoges, ou l'auteur japonais, le poète japonais qui a vécu en 1914 à Limoges.
Est-ce que c'était dans vos projets de créer un beau livre ?
Alors, très honnêtement, non. J'avais jamais eu cette idée. Beaucoup de livres que j'avais fait ou que nous avions fait avec Philippe Grandcoin avaient un rapport avec la ville, notamment l'affaire Barato, qui se passe quasiment que dans Limoges, qui est sorti en 2022, ou le livre sur Jean-Baptiste Boudot, épicier photographe, qui a photographié beaucoup Limoges, ou les romans que j'avais préfacés, que j'avais retravaillés avec Ingrid Nice, Le Capitaine des Meurs de Faim, qui se passe à la fin de l'Empire et qui se passe également à Limoges. Des ouvrages aussi politiques, d'histoire politique, comme 1905, Le Printemps Rouge de Limoges. Donc il y avait quand même l'accumulation d'une connaissance de cette ville dans laquelle je suis arrivé il y a en gros une cinquantaine d'années, dans laquelle je suis revenu vivre aussi, j'en suis parti mais j'y suis revenu, et dans laquelle j'ai déménagé à plein d'endroits. Et effectivement, peut-être que ces photos, en tout cas lorsqu'elles m'ont été envoyées, je me suis rendu compte qu'elles magnifiaient tellement la ville que ça méritait effectivement d'écrire et de trouver quelque chose qui puisse faire ce que vous avez très bien dit, c'est-à-dire une sorte de promenade, de découverte.
C'est du coup en voyant les projets photos que vous avez eu l'idée de collaborer ?
Oui, c'était, voilà, j'ai demandé, quand le projet m'a été proposé, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie les photos. J'ai trouvé qu'elles étaient intéressantes, que le projet était intéressant. J'ai aussi souhaité regarder, voir d'autres livres que Chanel Coel avait réalisés sur d'autres villes, notamment, je pense à Le Mans, la ville du Mans, ou la ville de Lyon, notamment. Celui du Mans m'a particulièrement marqué et j'ai essayé de répondre à l'attente du photographe, de comprendre aussi sa démarche. C'est vrai que ça a été très utile de faire avec lui. On a passé 2 jours en juin 2022 où on a arpenté la ville, notamment les bords de Vienne, le four des Cassots. Et je lui ai fait aussi découvrir des choses qu'il n'avait pas forcément vues. Je l'ai fait monter, je l'ai fait aller en hauteur et je l'ai fait aussi descendre sous terre, notamment dans les souterrains. Et en voyant également comment il travaillait, en l'accompagnant dans une partie de son travail photographique, ça m'a aussi permis de m'imprégner de sa propre démarche.
Comme vous l'avez dit, Chanel Cohen, il ne connaissait pas forcément la ville de Limoges avant de pouvoir travailler sur ce projet. Est-ce que son regard a apporté quelque chose de nouveau ou de spécial pour vous ?
Alors oui, notamment la manière de photographier les toits. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de photos de toits. C'est même celle qu'on met juste avant la préface. On a mis une photo de toits où Limoges a des airs de ville du sud, des airs de ville même italienne ou romaine. Et ça m'a interpellé sur cette hésitation. C'est aussi pour ça que je commence par cette localisation géographique. Ça renvoie à qu'est-ce qui fait qu'une ville s'installe à un endroit donné. Donc la volonté aussi de réfléchir à la topographie et aussi à la toponymie. Là, jusqu'à présent, j'ai évoqué surtout les éléments historiques et le regard des voyageurs sur la ville. Là, c'est une interrogation sur qu'est-ce qui fait qu'un site naturel, un site géographique, est choisi pour y installer une ville. Et une ville qui a été plus importante dans le classement des villes françaises dans le passé. Je crois que j'en parle, j'évoque le fait qu'elle a été 17e ou 18e à une époque. C'était la plus grande des villes moyennes, on va dire, au début du 20e siècle. Et on évoque, ça m'a fait réfléchir aussi à cette installation entre Laurence et la Vienne. On est vraiment sur un immense site élargi de coteaux orientés au sud-ouest entre deux rivières, un affluent et une rivière principale. Le fait également qu'on est dans une situation équidistante entre le nord et le sud. Je le dis d'ailleurs, c'est la ville la plus au nord du sud. Je pense davantage d'ailleurs que ce soit la ville la plus au nord du sud que la ville la plus au sud du nord. Et elle est à la fois différente des villes de l'ouest, des villes atlantiques, et elle est aussi différente des villes du massif central. Donc on ne peut pas dire que Limoges soit une ville atlantique, et on ne peut pas dire que Limoges soit une ville du massif central. On est à ce point d'équilibre, de rupture, je ne sais pas comment le dire, entre ces deux espaces-là. Et c'est aussi la ville la plus au nord de l'Occitanie. La frontière de l'Occitanie passe dans les Monts de Blanc, notamment. L'Occitanie remonte un tout petit peu au niveau du Limousin, et ça explique aussi cette situation, je le dis aussi, elle est à la fois loin des montagnes à neige, elle est à la fois loin des frontières, elle est très loin des frontières, elle est à la fois loin de l'océan, elle est relativement éloignée de la capitale. Ça prépare presque, ça préfigure presque l'explication du terme limogé, je dirais, dans son installation géographique. Et ça a été aussi une autre de mes volontés, c'est d'inverser, de s'approprier, en tout cas de ne pas éluder cette question du limogeage, où en filigrane, je pose la question, et je termine aussi là-dessus, pourquoi c'est à ce point-là péjoratif ? Et péjoratif y compris dans une représentation, on l'a vu récemment avec Philippe Cavrivière et RTL qui s'est moqué de Limoges, c'est une espèce d'invariant. Il y a eu, à un moment donné, il y a eu Roland Giraud aussi qui avait osé dire, est-ce qu'il y a simplement un seul théâtre à Limoges, ville où il y a 4 théâtres, excusez du peu, il y a même 5 théâtres, il y avait 5 théâtres à ce moment-là, on va les nommer Expression 7, La Passerelle, le petit théâtre, on va dire, dont j'ai oublié le nom, qui est dans le quartier de la Cité, le Théâtre de l'Union et l'Opéra Théâtre. Ce qui n'empêchait pas quelqu'un dans une émission télé ou radio, je ne sais plus, de dire est-ce qu'il y a un seul théâtre à Limoges ?
Vous travaillez depuis très longtemps sur Limoges. Est-ce que vous découvrez des choses encore aujourd'hui ?
Oui, parce qu'une ville est un corps vivant, donc elle est sans arrêt en mouvement. par exemple dans cet ouvrage il y avait la volonté de Chanel Cohen de privilégier ce qui était relativement patrimonial. Moi je l'ai amené sur des espaces un peu plus récents, notamment le Palais des Sports pour donner cet exemple qui est l'élément le plus récent. J'ai tout à fait conscience qu'on pourrait faire un livre sur Limoges en ne photographiant que les quartiers populaires et qui ne ressemblerait pas du tout à ce livre-là. Voilà. Donc j'ai cette précaution oratoire voilà, si vous avez remarqué, c'était aussi, alors là pour le coup, c'était aussi ma volonté. J'ai souhaité terminer que le livre se termine par le marché Marceau qui est photographié. C'est le choix de il y a 4 photos hein, sur le marché Marceau. Chanel Cull l'a photographié de cette manière-là parce qu'il est photographe, moi je ne le suis pas. C'était aussi la volonté de montrer que la ville elle était en mouvement, qu'elle évoluait, et je fais partie de ceux qui n'ont pas de nostalgie. La nostalgie est quelque chose qui m'est étranger. Donc forcément, je suis jamais dans le fait de dire c'était mieux avant. Je pense que les choses évoluent en permanence. Elles évoluent à des rythmes plus ou moins rapides, plus ou moins lents. Le Limoges de 2030 sera différent du Limoges de 2023 que nous sommes. Et donc il y a encore des endroits, il y a encore des espaces. Alors il peut y avoir des découvertes, on va dire, de type archéologique, style ce qui a été découvert à Chambouré. Là, je pense au très bel artefact d'une divinité paléo-chrétienne, mais il y a aussi des découvertes de création, de retransformation des lieux. On le remarque aussi dans notre livre, il y a beaucoup de lieux qui sont des lieux transformés. Je pourrais en faire la liste. La chapelle de la Visitation, qui a mis un usage passé, un nouvel usage. L'ancien couvent des Sœurs de la Providence, qui est dorénavant l'espace Simone Veil. Le musée de la Résistance, l'avion qui est présenté dans le musée. Le musée du Bal, qui est un ancien évêché, etc. etc. Et ça m'intéresse, les lieux qui sont en transformation. Il y en a un qui, à mon avis, sera un jour en transformation. Il ne peut pas rester en l'état. On le montre de l'extérieur, c'est la chapelle du lycée Gay-Lussac, qui a été donc ancienne chapelle d'un collège de jésuites, qui a été le lieu de réunion des états généraux du Limousin, et qui, à un moment donné, va forcément évoluer, va forcément devenir autre chose que ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un espace fermé, avec des conflits d'usage, voilà.
Est-ce que ça vous intéresserait d'écrire un livre sur les transformations de la ville de Limoges ?
Bonne question. Alors, pas certain, parce que je pense qu'il faut... Il y a une dimension qui me manque, c'est la dimension architecturale que je maîtrise pas suffisamment. Et là, pour le coup, ça nécessiterait... alors, ça serait un travail considérable. Et ça nécessiterait... Il faut aussi savoir que les livres, ils sont aussi le point de rencontre entre la volonté d'un auteur et un public. Et là, on a commencé les séquences de dédicaces. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-unes. On voit que ce livre, en tout cas, rencontre son public. Mais il rencontre son public parce qu'il montre, comment dirais-je, la partie la plus patrimoniale, la plus ancienne, la plus belle de cette ville. Les transformations... urbaines n'ont pas toujours été forcément très réussies. Le photographe a eu, par exemple, a eu du mal à réussir à photographier en couleur la place de la République. Et vous remarquerez dans le livre, c'est quasiment les seules photos qui sont en noir et blanc. Voilà. Il l'avait presque oublié dans sa première campagne. On y est revenu et elle est compliquée à photographier, la place de la République.
De votre côté, j'ai l'impression que vous êtes un grand amoureux de cette ville. Et qu'est-ce qui vous a séduit du coup à Limoges ?
Alors, le titre est pas le fait du hasard. Il y a un côté extrêmement humble dans Limoges qui me plaît véritablement. On n'est pas dans l'ostentatoire. Pourtant, c'est une ville d'ostension, c'est ça qui est extraordinaire. On est dans cette modestie, on est dans cette réserve, on est dans... Elle nécessite un effort pour être découverte. Et j'ai bien aimé notamment lorsque j'ai rencontré Chanel Cull, donc pour de vrai, où il a dit une chose qui est une évidence, et dit mais quand même la porcelaine elle se donne pas tant que ça à voir dans cette ville, et je suis d'accord avec lui. Et pourtant il y a eu des efforts de fait ces dernières années. Et elle est pas immédiate. Et comment dirais-je ? Je vais vous citer les deux autres villes où j'ai vécu, où c'est plus immédiat, qui sont des villes du sud. Avignon, où j'ai vécu un an. Avignon, il y a une immédiateté de la beauté du centre d'Avignon. Et Bordeaux, où j'ai fait une partie de mes études. Et Bordeaux, il y a aussi... Alors, la ville a été magnifiée par la politique municipale qui a été mise en œuvre récemment. La ville aussi a une beauté immédiate. Avignon, je vais dire une chose qui va peut-être surprendre, pour y avoir vécu donc une vraie année en dehors du festival d'Avignon, c'est pas la ville la plus passionnante qui soit. Voilà, les 11 autres mois de l'année. C'est une très 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 belle ville. C'est une ville qui est entourée, qui est dans un maillage urbain extrêmement important. Mais je le redis, une fois qu'on a passé les deux mois de l'été, c'est voilà, elle n'a pas une offre culturelle, elle n'a pas une offre intéressante de ce point de vue-là. et Bordeaux. Je trouve que Bordeaux a un côté, elle est en train de souffrir de son développement complètement surdimensionné. Et donc ce que j'aime à Limoges, c'est la rapidité avec laquelle on bascule d'un univers à un autre. Ce qui en fait aussi la complexité. Et la complexité dans les relations sociales ou dans les autres villes, on va progressivement d'un espace à un autre. C'est le cas à Lyon, c'est le cas dans les grandes villes. Là, parfois, il y a des ruptures qui sont extrêmement rapides, voire extrêmement tendues. Mais on peut basculer, en gros, d'un centre-ville historique à des quartiers populaires d'habitat collectif. Et puis ensuite, la campagne la plus ancrée dans une intemporalité où les paysages n'ont pas... Enfin, comment dirais-je, les paysages. Une partie des paysages n'ont pas bougé tant que ça.
Alors, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez d'autres projets après la parution de ce livre ?
Alors, il y a un projet actuel sur lequel je mets beaucoup, beaucoup de temps à travailler, où je travaille avec deux personnes que je vais citer, donc le cartographe qui s'appelle Thierry Moreau et Éric Bouteau, qui fait des visites historiques et touristiques, qui est sur un bottier cinéaste et photographe, et qui a fait plus de 300 ou 400 photos de la Haute-Vienne et du sud de la France, et aussi un petit peu du Massif central et également de la Normandie, et qui a une vie assez passionnante. Et pour une raison que je ne m'explique pas, en règle générale, j'arrive assez rapidement au bout de mes projets. Et là, c'est un projet qui est en mauvais français, on dirait en stand-by, en attente, où j'ai le plan, j'ai la sélection des photos, j'ai même fait le travail de cartographie avec Thierry Moreau. Donc voilà, j'ai le plan, j'ai le sujet, j'ai la cartographie, j'ai la sélection des photos, et je n'arrive pas à passer la phase d'écriture. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est un moment, voilà. Et mon éditeur, qui est un autre éditeur, commence à s'impatienter parce que je reporte tout le temps la remise du manuscrit. Et c'est le seul projet que j'ai en cours. Alors, tout en sachant que je suis attendu sur d'autres projets où j'ai promis de participer avec à peu près les mêmes personnes, d'ailleurs, Eric Bouteau sur l'un et aussi Thierry Moreau, mais que les autres projets sont conditionnés par le fait d'avoir terminé celui-ci. Voilà, je suis au moins prudent en ne commençant pas les autres, mais juste avant de venir là, c'était drôle, l'un des porteurs de projet me disait, mais tu sais, le plan, c'est un autre bouquin, le plan est déjà prêt et le co-auteur a déjà fait une partie de sa partie, donc la pression s'exerce sur moi, il va falloir que je me mette au travail.
Je voudrais vous remercier d'avoir accepté cette interview aujourd'hui avec moi. Pour rappel, votre ouvrage Limoges, Humble et Rebelle, en collaboration avec Chanel Coel, est disponible en librairie Maison de la Presse et Grande Surface depuis le mois de novembre.
Merci.
Merci à vous.
C'était le magazine culturel sur RTF. Retrouvez-nous également sur internet rtflimoges.com.